Sachez qu'il existe des ressources disponibles à l'UCO qui sont à votre disposition. On a l'aide psychosociale et le programme Paris qui existe. Donc, brièvement, l'aide psychosociale, c'est moi et Guylaine sur nos campus qu'on peut recevoir vos demandes, évaluer vos besoins. On va vous diriger vers les programmes Paris ou des ressources externes. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Vous avez les différentes adresses. Il y a le programme d'aide en santé étudiante de l'ASSEC. Donc, si vous payez les assurances de l'université, vous avez droit à ce programme-là. Et pour les étudiants de Ripon et de Gatineau, vous avez la clinique de santé étudiante de l'UCO. Donc, je vais laisser la parole à Guylaine pour la suite au niveau des stratégies pour la gestion du stress.
Alors, bien, bonjour tout le monde. Je me présente, c'est Guylaine Robichaud. Je suis travailleuse sociale au campus de Gatineau. Alors, la deuxième partie de l'atelier est destinée à vous informer des stratégies de la gestion du stress. Puis le but, c'est vraiment d'exposer plusieurs stratégies afin que vous puissiez trouver au moins une stratégie qui vous convient. Les stratégies d'autogestion sont personnelles à chacun. Il est donc essentiel de trouver celle qui fonctionne pour vous. Cet atelier vise à vous rappeler que vous pouvez reprendre le pouvoir sur le stress en le connaissant mieux et en développant des habiletés d'autogestion. Donc, c'est quoi l'autogestion de la santé? C'est vraiment développer un pouvoir par la connaissance et la maîtrise de certaines habiletés. Donc, toute personne peut, par ses décisions et comportements, améliorer sa santé au quotidien. Pour réussir à gérer efficacement sa santé, il est nécessaire d'apprendre à bien se connaître. Demandez-vous quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses. Un processus d'introspection continue. De plus, il est essentiel d'évaluer régulièrement votre état de santé et d'observer les fluctuations de votre humeur ou de votre bien-être. Cette vigilance permettra de repérer plus rapidement les symptômes de stress. Ensuite, il est important de choisir au quotidien des comportements qui favorisent notre bien-être. Par exemple, identifier une action concrète que vous pouvez faire à tous les jours pour prendre soin de vous. Enfin, la capacité de se mettre en mouvement et d'agir est déterminante dans l'autogestion de la santé. Cherchez de façon proactive à réduire votre niveau de stress. Ensuite, pour les stratégies de gestion du stress. On constate qu'un bon nombre d'étudiants universitaires ressentent un stress important lors de leur parcours académique. Certains se sentent isolés, stressés, anxieux, déprimés, épuisés. Lorsque vous êtes en état de stress, il se passe des phénomènes physiologiques dans votre corps. Tout le système sympathique se met en action pour mettre votre corps en alerte et se préparer à réagir face à la menace de stress. Une fois l'alerte passée, c'est le système parasympathique qui entre en jeu et qui favorise la détente afin de ramener votre corps au système de base. La respiration contrôlée est une activité que l'on retrouve dans toutes les pratiques de yoga, relaxation et méditation. On sait que le stress fait accélérer la respiration et la rend superficielle. Alors, lorsqu'on prend le temps de respirer profondément, on peut enclencher une réaction de détente. Un exemple que j'aimerais vous donner, parce que, par exemple, certains vont être anxieux, mais également ressentir des crises de panique. Pour une bonne façon de gérer ça, c'est vraiment d'utiliser la respiration abdominale. Pour gérer une crise de panique, vous pouvez placer votre main sur votre ventre. Imaginez qu'il y a un ballon à l'intérieur de votre corps. Quand vous inspirez, le ballon se remplit. Et lorsque vous expirez, il rapetisse. Remplissez le ballon en inspirant et vide-le en expirant. Répétez cet exercice pendant 5 minutes. Et en même temps, c'est très aidant de vous dire que je vais bien, ces sentiments vont passer, ce n'est pas dangereux pour ma santé. Reconnaître que c'est une crise de panique peut vous aider à maîtriser les symptômes physiques qui parfois peuvent vraiment nous effrayer. La méditation, elle propose une attention portée sur le présent en laissant défiler les pensées restées bloquées dans le passé et celles qui se projettent dans l'avenir. C'est prendre conscience de soi dans l'ici et le maintenant. Ceci permet d'établir une distance face à nos émotions et nos pensées négatives. Et ça nous permet également de retrouver le calme et la sérénité. Ensuite, la relaxation musculaire progressive aide à soulager les symptômes du stress en relâchant les groupes musculaires les uns après les autres. Et finalement, le yoga vise la détente et l'harmonie entre le corps et l'esprit. Par exemple, des chercheurs en psychologie de l'Université Goldsmith de Londres ont montré que quelques minutes de posture de yoga pouvaient déjà nettement augmenter le niveau d'énergie ressenti et l'estime de soi. Ensuite, pour la diapo de ce que je ne peux pas contrôler et ce que je peux contrôler. Les facteurs stressants, ils font malheureusement partie de notre vie au quotidien, au niveau personnel, au niveau professionnel. Ils peuvent toutefois ne pas être directement responsables de nos problèmes. En effet, c'est peut-être plutôt notre réaction face aux événements stressants qui peut devenir problématique. Plusieurs se sentent stressés lorsque leur plan ne fonctionne pas comme prévu ou encore lorsqu'on a l'impression de perdre le contrôle de la situation. Le sentiment d'impuissance augmente le stress. Il est important de réaliser que vous pouvez réaliser ce que vous pouvez contrôler, par exemple vos perceptions de la situation. Ensuite, pour la connaissance de soi, bon, ça c'est vraiment la base au niveau d'un développement personnel et puis pour apprendre justement à choisir les stratégies d'auto-soin qui vont fonctionner pour vous. Donc, le chemin du bien-être peut être considéré comme un processus d'apprentissage. La connaissance de soi, c'est la première étape afin d'améliorer son bien-être. Comment peut-on changer ce qu'on ne reconnaît pas? Il est essentiel d'identifier ce qui est réellement important pour vous et vous devez vous demander quelles sont vos motivations profondes en identifiant vos valeurs. En effet, nous avons tous un système de valeurs, mais souvent c'est inconscient et on n'a pas réalisé l'importance de ces valeurs-là. Alors, découvrir vos valeurs en les identifiant, vous allez être en mesure de prendre des décisions éclairées face à votre futur et d'établir les limites avec votre entourage. Enfin, rappelez-vous que votre développement personnel constitue un processus de réalisation qui s'étale sur toute une vie. Au niveau des pensées négatives, le niveau de stress qu'on ressent, c'est souvent relié à la manière dont on interprète l'événement, comme on l'a répété à plusieurs reprises. Un discours intérieur composé d'inquiétude ou d'anticipation négative ou encore de dévalorisation crée et nourrit le stress. C'est important d'être conscient de la petite voix négative dans notre tête qui parfois nous dénigre et qui nous fait croire que nous sommes sans valeur. Ces pensées sont destructives et peuvent influencer nos décisions, nos relations, nos actions de façon négative. Voici un exercice qui peut vous aider à maîtriser les pensées négatives. Donc, la première étape consiste à observer votre ressenti, apprendre à identifier les symptômes de stress dans votre corps. La deuxième étape, écoutez vos pensées et prenez conscience de vos distorsions cognitives. Est-ce que j'amplifie la gravité de la situation? Est-ce que je me dénigre? Par exemple, en me disant « je ne suis bon à rien, personne ne m'aime, je ne serai jamais à la hauteur ». Écoutez et remarquez comment ça ressemble à de l'intimidation. Nous savons maintenant l'impact de l'intimidation pour les victimes. Alors, c'est également très néfaste lorsqu'on se dévalorise et qu'on se dénigre au quotidien. Essayez de ne plus vous insulter même en blague. Parce qu'à ce moment-là, lorsque vous allez arrêter de faire ça, même de dire « Ah, ben je suis tombée stupide », même si c'est une blague, ça envoie un mauvais signal très négatif à votre cerveau. Alors, on veut arrêter d'agir comme ça pour être en mesure d'envoyer un signal au cerveau comme quoi que vous valorisez et vous reconnaissez votre valeur. Donc, la troisième étape, c'est confronter vos pensées à la réalité. Est-ce que j'assume sans avoir les faits? Est-ce que je fais preuve d'autocompassion et je reconnais ma valeur en cultivant de la bienveillance à mon égard? Et la dernière étape, c'est observer vos ressentis à nouveau afin de prendre une distance face à vos pensées négatives. Parce que lorsqu'on se libère et qu'on commence à se regarder agir et réagir, mais il y a un changement qui commence à s'opérer et on devient observateur de soi-même. Ensuite, le tableau de visualisation, c'est un tableau de visualisation C'est un assemblage de photos, d'images, des affirmations de vos rêves et de vos objectifs que vous aimeriez atteindre dans votre vie. En créant un tableau de visualisation, vous aurez en face de vous ce que vous souhaitez précisément manifester dans votre vie. Réfléchir à ces souhaits pour le futur augmente la motivation. Prendre le temps de faire un tableau de visualisation personnel nous aide à nous ancrer consciemment, mais aussi inconsciemment, la volonté d'obtenir ce dont vous voulez. Il faut oser imaginer et plonger dans votre créativité. Donc, la gratitude, pour terminer, mais de nombreuses études ont trouvé qu'il y avait des avantages à pratiquer la gratitude au quotidien. Une approche psychologique visant à améliorer le bien-être et le bonheur par la gratitude consiste à se concentrer davantage sur ce que l'on a que sur ce que l'on n'a pas. Nous avons tous tendance à regarder ce qui nous manque. On passe beaucoup de temps à évaluer les risques, les dangers, les échecs qui nous guettent. Alors, comment être plus reconnaissant? Un exemple, c'est de tenir un journal de gratitude en écrivant à tous les jours trois choses dont vous êtes reconnaissant. Et ceci peut vous aider à susciter de la gratitude au quotidien. Enfin, j'aimerais terminer en vous disant que nous avons constaté qu'il y a plusieurs étudiants et étudiantes qui souffrent en silence et n'osent pas entamer les démarches d'aide psychologique. Une des causes principales, c'est la stigmatisation liée à la santé mentale. Certaines personnes ont peur d'être perçues comme faibles ou comme fous. En plus d'être complètement fausses, ces croyances sont vraiment des barrières importantes pour les gens en détresse qui auraient besoin d'un suivi d'un professionnel. Donc, notre objectif, c'est vraiment de créer un environnement sécuritaire où il est naturel de discuter de la santé mentale ouvertement. De plus, nous voulons vous sensibiliser à l'importance d'auto-évaluer vos symptômes de stress afin d'être en mesure de réagir rapidement lorsque le stress commence à avoir des répercussions au niveau physique, émotionnel, psychologique et relationnel. Il s'agit de percevoir sa santé mentale au même titre que sa santé physique en lui accordant la même importance. Donc, lorsque vous allez vous ressentir une détresse émotionnelle, vous allez avoir le réflexe de consulter un professionnel sans gêne ni honte, sachant qu'il est temps de prendre soin de votre santé mentale. Puis, en terminant, c'est justement pour vous dire qu'on est là pour vous. Puis, comme Mitra a présenté les services psychosociaux, vous pouvez à tout moment nous interpeller, puis on va vous guider et vous accompagner dans ce processus.